7 mai, mercredi, Sigi Simard, voici les nouvelles. Le gouvernement Legault ira finalement de l'avant avec l'entièreté du projet de réfection de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Par communiqué, il indique que les sommes sont provisionnées pour cette année et pour toutes les années subséquentes. Les travaux préparatoires vont donc débuter très rapidement. Un appel d'offres sera lancé au cours des prochaines semaines. En tout, le gouvernement indique que les sommes nécessaires ont été dégagées pour permettre de compléter la planification d'une trentaine de projets concernant essentiellement des établissements de santé à travers tout le Québec. Par ailleurs, le gouvernement caquiste déposera demain un projet de loi visant à mettre les médecins au pas. Ce projet de loi vise à instaurer la responsabilité collective des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Il sera déposé en pleine négociation pour renouveler l'accord cadre avec les docteurs François Legault.
C'est certain que ça va brasser. C'est quelque chose qu'on discute depuis plusieurs années. Le syndicat des médecins a toujours refusé de prendre en charge, de prendre ses responsabilités. Donc, ça va brasser, mais on va pas reculer.
La Société de l'assurance automobile n'avait pas de plan B en cas de panne comme celle qui paralyse ses services depuis mardi. Elle croyait à tort que le système en cause fourni par Microsoft ne pouvait flancher.
Le gouvernement Legault blâme Microsoft pour la panne informatique qui bloque la majorité des services à la SAC.
C'est pas SACLIC qui est en panne, mais bien Microsoft.
Pendant l'étude des crédits budgétaires, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a reconnu que la situation n'en reste pas moins inacceptable.
Oui, ça me dérange. Est-il normal qu'il n'y ait pas de plan B en cas de panne?
Côté, le PDG de la SAC, Éric Ducharme, a offert ses excuses aux Québécois.
On en est désolé, on s'excuse auprès de l'ensemble des clientèles.
Tout en expliquant que Microsoft avait pourtant garanti que ses 12 serveurs ne pouvaient pas flancher tous en même temps. Or, c'est exactement ce qui s'est produit.
Non, la panne n'est pas normale, c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver.
Mais ce n'est rien d'étonnant pour les oppositions, le chef libéral Marc Tanguay.
C'est un fiasco. À quelle heure la ministre devient responsable?
Philippe Rodrigue, comme au Cogeco Nouvelles, Québec.
Un mouvement de grève semble vouloir s'organiser chez les élèves du Québec qui souhaitent s'opposer à l'interdiction des téléphones cellulaires sur les terrains des écoles. Philippe Villeneuve.
Les jeunes ont fait la grève!
Cette vidéo publiée sur TikTok par l'utilisateur SchoolQC fait fureur sur les réseaux sociaux. Un jeune étudiant invite tous les élèves du Québec à se mobiliser ce vendredi afin d'envoyer un message au gouvernement provincial.
Monsieur, madame, gouvernement, on a des problèmes beaucoup plus graves que le téléphone à l'école.
De nombreux élèves de la polyvalente de l'Érablière à Gatineau se disent prêts à y prendre part.
Il y avait une grève vendredi. Est-ce que vous en feriez partie,
ouais? Ouais.
Probablement, là, ouais. Je vais sûrement y aller. Mes amis, ils vont.
Plusieurs sont préoccupés pour la sécurité des étudiants s'ils n'ont pas accès à leur téléphone cellulaire en cas d'urgence.
Si y a un élève que je sais pas, il est en train de faire un AVC, faut t'appeler le 911, faut que tu cours jusqu'à l'autre bout de... C'est ridicule. Là.
D'autres affirment qu'ils appuieraient la mesure si elle ne s'appliquait qu'en salle de classe.
En classe, ça devrait être interdit là, parce que c'est faut se concentrer, mais comme en dehors de la classe, c'est faudrait les avoir. Là.
Philippe Villeneuve, Cogeco Nouvelles, Gatineau.
Les députés du Bloc québécois n'assisteront pas à la lecture du trône du roi Charles III le 27 mai. Mais à la Chambre des communes, sans surprise, c'est ce qu'a confirmé le chef Yves-François Blanchet à l'issue du premier caucus, puisque les membres du Bloc n'y assistent jamais. Le chef a également salué les résultats de la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump hier. Il estime toutefois que M. Carney a manqué une occasion de revendiquer des changements à propos des tarifs dans le milieu du cinéma.
Je n'ai pas vu de sensibilité à l'endroit de la différence culturelle québécoise. Il y a eu beaucoup plus de gratification accordée au roi d'Angleterre qu'à la culture québécoise. L'un a été invité à lire le discours du trône, l'autre a été ignoré dans la rencontre avec Donald Trump.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Météo.
6 degrés, pluie intermittente ce soir, cette nuit pour Québec. 7 et 60% de risque d'averse pour demain jeudi. Trois-Rivières, 6 et 9, 40% pour les risques de pluie. Sherbrooke, 7 et 9, 40% là aussi. Gatineau, 5 cette nuit, 40% de risque d'averse. Ce sera couvert demain, maximum de 14. À Montréal, 8 et 12. Demain jeudi, ce sera généralement nuageux.
Cogeco Nouvelles.
Qui fait jaser dans le Bas-Saint-Laurent.
CFIX FM 93.
Si ça fait partie de l'actualité, vous le saurez à CFIX FM 93.
CFIX.
L'actualité. Jusqu'à 18h30, vous écoutez Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco Média. Voici Philippe Quentin.
Il est 18h05, il fait 20 degrés à Montréal. Devrait avoir de la pluie ce soir, 40% de probabilité d'averse. Ça demeurera relativement doux. Demain, nuageux et 13 degrés. Vendredi, par contre, ce sera la moins belle journée de la semaine. Plus frais, là, minimum de 7, maximum de 10, avec 80% de chances de pluie. Mais tout devrait se résorber pour le week-end. Samedi, on annonce une très belle journée. Et encore mieux pour dimanche, avec plein soleil pour la fête des mères. Et puis là, la semaine prochaine, je regarde les maximums pour la semaine prochaine, là, 23, 25, 25. Bref, le printemps là, semble réellement parmi nous, sauf pour cette petite journée de vendredi qui va être un petit peu moins intéressante. Dans quelques minutes, Mario Langlois sera là. Ensemble, on va parler des séries éliminatoires de la Coupe cette année. Il y a un match qui est très attendu ce soir. Les Panthers de la Floride et les Maple Leafs de Toronto. On sait que ça a brassé pas mal dans le premier match remporté par les Maple Leafs. Alors, beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette série. Et les Stars de Dallas qui vont visiter les Jets de Winnipeg. Ce sera le premier match de leur série. Mais pour l'instant, on va parler du développement des jeunes joueurs et des jeunes joueuses de hockey. Hein, on peut très facilement mesurer certains de leurs atouts physiques avec toutes sortes de tests. Mais quand vient le temps de prendre la mesure de leur, ce qu'on appelle l'intelligence hockey, le QI hockey, ben c'est encore beaucoup empirique. Ce sont des jugements subjectifs qui parfois peuvent être biaisés. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de rendre ça plus scientifique? Ben, il y a un professeur au département de kinésiologie et d'éducation physique de l'Université McGill qui croit que oui, on peut certainement avoir une approche scientifique pour mesurer le QI hockey des jeunes joueurs, des jeunes joueuses. Il s'appelle Daniel Fortin-Guichard. Il est l'auteur principal de cette étude qui a été publiée dans le Journal of Sports Sciences. Daniel Fortin-Guichard, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, ça me fait plaisir. C'est assez révolutionnaire, votre approche. Hein. On s'est toujours fié un petit peu au pif des dépisteurs, des coachs pour mesurer le QI hockey des joueurs.
Oui, exactement. Ce que l'étude dit, en fait, c'est qu'ils sont assez bons, mais qu'on arrive à les aider un peu, là, à préciser un peu la mesure en utilisant des tests un peu plus objectifs. Mais que de base, ils font une bonne job.
OK. Ils font une bonne job, mais comme dans toute chose, la science peut les aider à s'améliorer. C'est quoi les outils que vous avez développés ou auxquels vous songez pour améliorer cette méthode d'évaluation?
Oui. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'il existe vraiment là une pléthore d'outils qui prétendent mesurer ou entraîner ce qu'on appelle les capacités perceptivo-cognitives en sport. En langage, en jargon de hockey, c'est vraiment le hockey sense, le hockey IQ. Tous ces outils-là, en fait, on ne sait pas s'ils reflètent bel et bien les capacités sur glace. Ou si c'est juste des outils qui permettent de mesurer les capacités perceptivo-cognitives hors glace décontextualisées du hockey. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on en a pris 5 parce que on était limité dans le temps de ce qu'on pouvait mesurer sur chaque joueur. À un moment donné, les joueurs ont autre chose à faire. Mais il y en existe pas mal plus que 5. On en a pris 5. Puis ce qu'on a fait, c'est que la raison pour qu'on a choisi ces 5-là, c'est qu'ils étaient de plus en plus représentatifs du hockey. C'est-à-dire que la moins représentative, c'était vraiment une batterie de tests qui permet de mesurer le QI, on va dire, standard, là, l'intelligence humaine en général, donc des tests neuropsy qu'on appelle. Après ça, l'autre d'après, ben, c'est un petit peu plus contextualisé au sport parce que ça s'appelle le neurotracker, c'est des balles de tennis holographiques qui se promènent dans un environnement 3D. L'autre d'après, c'est ce qu'on appelle de l'occlusion temporelle, fait que c'est des séquences vidéo de hockey qui gèlent à un moment clé de l'action, puis l'athlète doit anticiper ce qui s'en vient. Puis là, pendant que l'athlète visionne ces séquences-là, ben, on a un appareil qui permet de suivre les mouvements oculaires. L'étape d'après, réalité virtuelle, c'est que l'athlète joue au hockey dans un environnement virtuel avec un sensor sur son bâton qui vibre lorsqu'il reçoit des rondelles virtuelles. Puis finalement, la plus représentative, ben, c'est des ce qu'on appelle des small-sided games, des parfaits effectifs réduits qu'on filme puis qu'on extrait des statistiques avancées qui sont censées être reliées au QI hockey. Fait, bref, c'est tous des outils objectifs qu'on essayait de voir lequel ou lesquels de la combinaison de ces tests-là permettait le mieux de représenter l'évaluation des entraîneurs du QI hockey sur glace.
Et vous en êtes arrivé à quelle conclusion?
On est arrivé à la conclusion que il y a aucun test hors glace qui dépasse ce que les dépisteurs sont déjà capables de faire. Des dépisteurs qui regardent les joueurs jouer à toutes les semaines, par exemple, des dépisteurs de la LHJMQ qui vont voir des joueurs midget 3A, ils sont déjà capables de déceler à peu près les meilleurs joueurs les joueurs qui auront le meilleur QI hockey. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est capable d'améliorer leurs prédictions en incluant une couple de mesures issues de cette batterie test-là, là, c'est-à-dire qu'on était sur les 5 tests que je vous ai listés, mais j'ai fait ça vite, là, mais on était capable d'extraire 72 potentiels prédicteurs. Puis de ceux-là, là, par exemple, le nombre de passes reçues lors des parties effectifs réduits était un contributeur significatif. Le nombre de fixations oculaires pendant la tâche d'occlusion temporelle, là, celle avec les séquences vidéo, était un autre prédicteur intéressant. Pis sinon, ça, c'était contraire à l'hypothèse. On était vraiment contents de cette découverte-là. Un test qui s'appelle Odd One Out, donc qui est un test neuropsy. Qui est complètement décontextualisé du hockey. Là. Donc, c'est pas des bâtons ou des rondelles qui sont à l'écran, c'est vraiment des formes, là, des triangles, des cercles et autres. Puis la tâche de l'athlète, en fait, on lui présente 9 stimuli, c'est de trouver lequel qui est bizarre. Bon, au début, c'est facile, il y en a 8 rouges, un bleu. Fait que tu prends le bleu. Mais plus t'es bon, plus ça devient difficile parce que les relations entre les stimuli deviennent de plus en plus subtiles. Par exemple, en termes d'orientation, de couleur, de nombre, de bon, je vous épargne les détails. Fait que c'est ça. Le odd one out, le nombre de fixations oculaires, le nombre de passes reçues. Il y avait aussi une mesure issue de la réalité virtuelle. Tout ça mis ensemble, là, on arrivait à prédire là, à peu près 25% de variance de plus que ce que les dépisteurs étaient déjà capables de faire.
Et est-ce que ça donnait des résultats étonnants? Par exemple, un joueur qui avait été évalué, puis je vais inventer une échelle. Là. Disons que son intelligence hockey, vous l'aviez évalué dans les premiers tests à 7, puis là, vous lui faites passer des tests supplémentaires, les tests dont vous venez de nous parler, puis ça monte à 9 ou au contraire, ça descend à 5. Est-ce que des situations comme celles-là sont arrivées?
Non, parce que en vérité, ce qu'on essayait de faire, c'était de prédire ce que les entraîneurs évaluaient eux-mêmes. Fait que là, l'idée c'est de voir est-ce que les dépisteurs accordent un score similaire aux entraîneurs, puis on se rendait compte que dans la plupart des cas, oui. Puis en fait, oui, oui et non. J'ai répondu non, là, mais j'ai pas regardé le fin détail de chaque joueur. Là. C'est quand on a un échantillon comme ça, on s'intéresse plus aux conclusions groupales. Mais ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble de l'échantillon, pour à peu près un joueur sur 4, on avait une meilleure prédiction de son QI hockey réel, donc de l'évaluation de ses propres entraîneurs, si on servait de ces tests-là.
Est-ce que c'est long faire ces tests-là pour un joueur, une joueuse?
Ouais, ben si je fais passer la batterie au complet, ça me prend à peu près 5 heures.
OK.
Par contre, là, moi, je travaille avec les Remparts, par exemple, depuis 2018, puis on est présentement dans la phase d'entrevue, justement, en prévision du repêchage. Puis on choisit parmi cette batterie test-là les plus prometteurs. Puis on fait passer là, environ une demi-heure, une sous-batterie, si vous voulez, là. Donc dans l'occlusion temporelle. Puis l'année dernière, on avait inclus aussi le odd one out. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec les ressources qui sont disponibles, les ressources temporelles qui sont disponibles.
Et est-ce que vous pensez que ça a beaucoup aidé les Remparts de Québec?
La seule chose que je peux dire, c'est que moi j'ai jamais vu jouer les joueurs au hockey. je leur ai juste fait passer une batterie de test pendant une demi-heure, mais ce que je peux dire, c'est que chaque année, les Remparts, je leur fournis un classement en fonction de leur résultat à la batterie de test. Puis je leur dis les chances que ce joueur-là ait un bon QI hockey est une belle prédiction, une belle performance dans 3 ans. Basé sur d'autres modèles là, de d'autres études qu'on a fait. Puis je sais que les Remparts s'en servent là comme un tiebreaker là, en cas de en fin de repêchage, surtout là, quand ils sont pas certains entre deux joueurs.
Ils vont se fier à ces tests-là. Et vous leur dites quoi?
Moi je leur dis toujours à chaque année, faites votre job. C'est-à-dire que dans les 2 premières rondes, surtout là, tu sais, moi je les ai pas vus jouer au hockey ces joueurs-là. Là. Fait que ces modèles prédictifs-là dans les 2 premières rondes, là, je ne sais pas si le gars il patine vite, je ne sais pas s'il y a une bonne shot. Fiez-vous à ce que vous avez observé toute l'année. Puis plus tard au repêchage, si vous avez des hésitations, ben là, vous pouvez aller consulter ce classement-là en fonction des mesures oculaires qu'on a ramassées là, sur le test d'occlusion temporelle.
C'est vraiment intéressant parce qu'on sait comment le sport a évolué. Hein? Daniel Fortin-Guichard, au cours des 15, 20, 30 dernières années, les équipements, la nutrition, la psychologie du sport, ça n'a aucun rapport avec ce que c'était dans les années 70. Et là, vous apportez un nouvel élément. Est-ce que vous pensez que cet élément-là va être adopté par plus d'équipes de haut niveau? Là, vous avez une équipe de la Ligue junior maritime Québec. Est-ce que vous croyez qu'un jour, des équipes de la Ligue nationale pourraient être intéressées par ce que vous proposez?
Oui, en fait, j'ai déjà eu des approches là, de la part de différentes équipes pour travailler pour eux comme sports scientists, là, scientifiques du sport. Par contre, souvent, quand on travaille avec des organisations professionnelles de très haut niveau comme ça, ben, il y a une chasse gardée sur le savoir, c'est-à-dire qu'il empêche les scientifiques de publier. Puis je comprends tout à fait pourquoi, mais moi, c'était quelque chose qui était très précieux pour moi de conserver mon droit de publication, donc mon poste à McGill manque.